Gros Captain Marvel. Donc le film sorti en mars et qui sera le prélude d'Avengers Endgames. Donc je pense qu'il y a deux grilles de lecture de ce film. Donc soit on est un noob total, donc si qu'il n'y a rien en comics. Donc on regarde le genre de film comme Le Grand Bain ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 75. Et on va voir ce film. Il y a un moyen facile d'attirer ce genre de public, c'est de faire un synopsis assez simple du film, qui est ce film, c'est l'histoire d'une femme qui est à la recherche de son passé pour éclairer son présent et afin de prospecter son futur. C'est tout. C'est pas après oui effectivement donc ça c'est le substrat du film. C'est un film de super-héros. Donc c'est on a habillé ça avec quelques super-pouvoirs. Donc si on regarde ça alors qu'on n'a jamais vu aucun Marvel, donc on regarde ce film. Donc on se base sur ce postulat, mais c'est une femme qui se réveille sur une planète martienne, qui une sorte de guerrière d'élite, qui a oublié son passé, donc elle va faire une mission sur une planète un peu inconnue, elle se fait capturer, et là elle commence à avoir des flashbacks de ce qu'elle était, elle découvre qu'elle vient de la Terre, elle va sur la Terre, elle rencontre un certain Nick Fury. Ils ont quelques péripéties, donc on suit un peu les pérégrinations de ces deux personnages. Puis à la fin, au milieu du film, elle se rend compte que peut-être l'ennemi n'était pas celui auquel on s'attendait. Donc va de révélation en révélation jusqu'à ce qu'elle découvre sa véritable identité. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le Deus ex machina, donc c'est Dieu qui sort de la machine, un grand classique dans les films. Deus ex machina et transformation en OP character, comme on dit dans les comics, donc overpowered character, personnage. Et du coup, le film il se finit en résolvant un peu le problème initial. Et qui était le recouvrement de la mémoire. Après, on pourrait. Peut-être si ce film c'était une citation philosophique, parce que j'aime bien prendre les choses comme si c'était des problématiques philosophiques. C'est philosophique, c'est est-ce que la connaissance. Est-ce que la connaissance de son passé est essentielle pour le présent ou pour l'avenir? Après, je sais pas si ça aurait été ça, on pourrait faire une grosse est-ce que c'est une condition nécessaire de se rappeler son passé? Est-ce que on peut citer Hegel? Hegel, il disait que l'homme c'était un être des lointains parce que par rapport aux autres, c'est le seul animal sur Terre qui a une conscience, donc il a une conscience, il sait qu'il a un passé, et il sait qu'il aura un futur et il sait surtout qu'il mourra. Bon, là on s'écarte un peu du truc, mais. Si on lit un peu les comics, je me rappelle, j'avais lu Phoenix parce que j'étais dans la salle. Il y avait la bande-annonce du Phoenix Noir, donc le prochain X-Men. Et je me rappelle quand j'avais lu Les Aventures du Phoenix Noir, première case du comics, le mec il te foutait une citation de Wittgenstein. Ça m'avait marqué, c'était toute réunion a un goût de résurrection et toute séparation a un goût de mort. Bon, ça c'est parce que les comics d'avant, ils étaient vachement philosophiques en fait. Bon, ça c'était pour un. J'ai vu une autre bande-annonce qui était pas mal, parce qu'il rejoint un peu le film, c'était Shazam. Faut savoir qu'à l'origine, Marvel, c'était un super-héros qui appartenait à DC. Et du coup, je me rappelle plus, je crois que Stan Lee, il avait racheté les droits du nom. Et ils ont gardé le personnage de Shazam chez DC. Et là, ils en ont fait un film, Shazam. Bon, ça, ce qui est dit. Maintenant, le film, il était moyen. Franchement, il était moyen. Est-ce qu'on est obligé de voir le film quand on n'a pas vu si, est-ce qu'on est obligé de voir le film pour aller voir Endgames? Non. Non, je pense pas. Maintenant, d'un point de vue, si on aime vraiment l'univers Marvel, il répond à plein de questions, ce film. Il répond à plein de questions. Et il donne une idée de ce qui va se passer dans Endgame. The future of our world is at stake. You have a mission. Voilà, maintenant spoil du film. Ah, parce qu'il faut spoiler là, parce que là, je pense qu'on a, on a plein de trucs à dire. Donc, moi, j'espère que vous avez vu le film. Donc, le film, il répond à plein de questions. Déjà, de une, Carol Danvers. Donc, on sait que elle a eu ses pouvoirs grâce à l'explosion d'un moteur développé sur la base du Tesseract. Donc, ce qui fait d'elle quasiment une sorte de pierre d'infinité vivante. C'est ça, avec le pouvoir de ce Tesseract là. Et donc, elle devient là ce qu'on appelle un OP caractère. Donc, ça veut dire c'est overpowered caractère. Je crois que c'est là avec Thanos et Thor. Voilà, donc c'est les trois OP caractères pour l'instant dans le MCU. Donc, ce qui donne une bonne indication de qui peut-être va goumer Thanos dans Endgames. Maintenant, le personnage de Nick Fury. Nick Fury, ils ont voulu le décrire comme jeune, il vient juste d'arriver au Shield. Il est un peu candide, donc il est exactement à l'inverse de ce qu'on avait vu, du Nick Fury qu'on connaît. C'est-à-dire là, il ne se méfie pas. Et du coup, dans tout ce qui lui arrive dans le film, ça va préfigurer son futur caractère, en fait, son futur personnage. Parce qu'il va découvrir qu'il y a une vie extraterrestre avec la vision d'un Skrull. Il va découvrir que l'ennemi peut venir de l'intérieur, donc il va commencer à se méfier de tout le monde, et en particulier du Shield. Et ils ont voulu faire une vision à la Men in Black du Shield avec cette relation particulière qu'il a avec Coulson. Et le fait que Coulson l'ait pas trahi dans le film, et ça préfigure toute cette chaîne de confiance qu'il y aura entre eux par la suite. Après, on explique d'où vient son bandeau de pirate. Donc c'était parce qu'il s'était pris un coup de griffe du chat. Voilà. Et ils expliquent à la fin quasiment à la fin du film où ils voient une photo de Carol Danvers. Et là, il écrit son fameux protocole, son initiative là, et il voit que ça, c'est sur l'appareil, c'était écrit Avengers, et là, il met The Avengers Initiative. Bon, ça, c'était pour un peu l'anecdote, en fait. Donc voilà, le personnage de Nick Fury, il est bien développé. Après, j'aime bien Samuel L. Jackson, il m'a rappelé un peu. Après, dans tous les personnages qui jouent, il y a une sorte de point commun, en fait, que ce soit dans Pulp Fiction et tout. J'aime bien cet acteur. L'Empire Kree. Enfin, l'Empire Kree, quelqu'un qui ne connaît pas l'Empire Kree, il n'y a pas de grosse explication là-dessus. Hein. L'intelligence artificielle, fallait avoir lu les comics pour savoir qu'à un moment, je crois qu'elle va être corrompue par Reed Richards des Fantastic Four. Donc, ils n'expliquent pas trop l'intelligence artificielle. Ils n'expliquent pas trop comment ça se passe dans l'Empire Kree. Ils expliquent que du coup c'est l'Empire Kree, c'était eux les méchants dans l'histoire, c'était pas les Skrulls du coup. Et ils expliquent pas d'où viennent vraiment les accusateurs. Donc Ronan l'accusateur, donc je pense que c'est un des je croyais qu'on allait le voir plus que ça dans ce film, mais pas tant que ça. Et lui aussi il joue un rôle assez ambigu parce que je croyais qu'il allait se battre à la fin contre Captain Marvel, mais il préfère éviter le combat. Il dit qu'il reviendra plus tard. Donc ça veut dire que à la base je crois qu'il avait un plan. Mais après, je pense que ça s'est mal passé par la suite parce que si on regarde bien dans Gardien de la Galaxie, il a un peu mis de côté et il a tout misé sur la récupération de la pierre d'infinité. Et ce qui nous amène à la pierre d'infinité, ce qui est assez impressionnant avec Captain Marvel, comme je l'avais dit, c'est une sorte de pierre d'infinité incarnée en une main. Elle peut manier le Tesseract comme si c'était un vulgaire objet. Et on sait que dans le MCU, il n'y a pas là les personnes qui peuvent manipuler le Tesseract, parce que je crois que Thanos lui-même l'avait dit qu'il y en avait qu'un ensemble assez fini, donc il fallait avoir 10. Donc moi je compte Thanos, je compte Captain Marvel, Ronan l'accusateur avec difficulté, il arrive à le manier. Il y a Red Skull, il arrive à le manier, ce qui explique un peu son apparition dans Infinity. Et t'as qui arrive encore à le manier? Thanos, Red Skull, Captain Marvel et Star-Lord. Voilà, parce que Star-Lord c'était le fils de Mi-Titan. Donc ça, maintenant le chat. Pareil, c'est encore une grosse référence à Men in Black et que ce chat, donc ce qui déjà ça explique le running gag pourquoi le Skrull il avait super peur du chat alors qu'on croyait qu'il avait juste peur d'un chat quoi. Alors que le chat il se transforme en sorte de giga pieuvre et je l'avais pas vu dans le comics parce que j'ai lu tout Mrs. Marvel et je ferais vite faire un petit point c'est quoi la différence entre le comics et le film là-dessus. Et j'ai Goose, il apparaît pas dans le comics Mrs. Marvel en tout cas. Maintenant le personnage de Captain Marvel donc dans le film elle s'appelle Verse après c'est que ça s'appelle Carol Danvers donc ce qui explique un peu le truc. Dans le comic c'est un peu différent, elle s'appelle Mrs. Marvel et après pour des raisons un peu scénaristiques on était obligé de la faire mourir et elle ressuscite en s'appelant Binaire et après elle prend le nom de Carol Danvers et enfin elle remplace Captain America pour vous dire si dans 10-15 ans s'ils font Civil War 2 parce qu'il y a un Civil War 2. Donc Civil War 1, c'est une opposition pour simplifier, entre Iron Man et Captain America. Dans Civil War 2, c'est l'opposition entre Iron Man et Carol Danvers. C'est elle qui... faut lire le comics, mais c'est elle qui provoque le Civil War 2 à cause d'Iron Man aussi. Donc ça. Le Dr. Lawson, enfin la Dr. Lawson, la doctoresse, c'était en fait un agent Kree infiltré sur la Terre. Elle avait pris le Tesseract pour faire une sorte de moteur, un super moteur spatial pour cacher les Skrulls. Parce que du coup, les Skrulls, c'était les gentils. On a cru que c'était les méchants. Et est-ce qu'elle savait la puissance du Tesseract? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle savait que c'était une pierre d'infinité? Je ne sais pas non plus. Mais je crois pas. Parce qu'en fait, elle a utilisé une propriété indirecte du Tesseract alors que c'était une pure pierre de pouvoir en fait. Ça. Les Skrulls, pareil, on a cru que c'était les méchants. Ils peuvent, même s'ils ont fait des trucs pas un peu contre la morale, ils ont tué des gens aussi. Y a pas, la différence avec le comics, c'est que dans le comics, avant même qu'elles se battent contre Ronan, l'accusateur, elles se battent contre un super Skrull. Et lui, il était capable non seulement de prendre l'apparence, mais il était capable de prendre la puissance des super-héros notamment dont il prenait l'apparence. Par exemple, il avait pris l'apparence de The Thing dans des Fantastic Four. Il avait pris l'apparence c'est Spider-Man contre la Torche avec Mrs. Marvel se bat contre un super Skrull qui a le pouvoir de la chose, de la Torche humaine et de Reed Richards. Donc, il a le pouvoir des trois, des quatre fantastiques en lui-même. Donc, du coup, je croyais qu'il allait apparaître dans le film, mais ils l'ont pas fait apparaître. Ok. Et qu'est-ce qu'on apprend encore dans ce film? Donc, on apprend d'où vient le Tesseract, en fait. Ça venait du docteur Lawson, qui après le chat là. Ah oui, le chat, il est capable de manipuler le Tesseract aussi. Ce qui repose encore une autre question. Première scène post-générique. Donc, on sait d'où vient le fameux bip Steve Fury qu'il avait donné. Et elle avait un peu upgradé sur le bip en disant. Des trucs de la Game Boy en plus. Elle n'a pas vieilli du tout à la fin. Pourtant, il se passe, je crois qu'il y a 20-25 ans d'écart entre les événements de Captain Marvel et Endgames. Elle n'a pas vieilli. Et maintenant, il s'était passé combien de temps entre l'appel du bip et cette scène post-générique? J'ai l'impression qu'il s'est passé. Déjà, la scène post-générique, est-ce que ce sera le début de Endgames? On peut se poser la question, on dirait. Est-ce que il s'est pas passé vachement beaucoup de temps, mais du coup elle a pas vieilli du tout. Donc on peut se poser cette question parce que dans le comics ils disent qu'elle a la force de 10 hommes, elle peut manier l'énergie photonique et elle a un septième sens. Bon, il n'y a pas le septième sens dans le film, À moins ce qui sera développé plus tard ou verra dans Endgames, elle a pas son un peu comme le Spider-Sense de Spider-Man là, elle l'a pas dans le film. Et à la fin, elle devient une sorte de ouais de super-héros. Donc c'était un peu comme le Super Skrull dont je vous ai parlé. Je croyais qu'il allait apparaître. Donc c'était un peu comme le Broly. Donc c'est un peu une bonne comparaison parce que qui maintenant on en vient à cette question. Qui va gober Thanos? Théoriquement, si ce film il est sorti, c'est elle qui va le goumer, Thanos. Mais moi, je pense que Thanos, il va se goumer de lui-même, en fait. C'est un peu comme Broly, parce qu'il était trop fort. Du coup, lui-même, c'est son trop-plein d'énergie qui va le tuer. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et voilà, donc à la fin, le chat, il rejette le Tesseract. Et voilà, donc après, on sait que Nick Fury les récupère. Après, c'est Loki qui le reprend et tout. Donc voilà, ce film il était moyen. Après, je sais que bon, après, purement pour des thématiques actuelles, ils voulaient mettre en place une super-héroïne, donc un rôle modèle féminin. Mais après, je sais pas, il y avait Wonder Woman qui était sorti chez DC. Je l'ai trouvé pas mal en plus le film. Hein. C'était un des films DC les moins pétés que j'ai vu. Et après, il y avait. Pareil, donc Gardien de la Galaxie, il y avait cette grosse thématique des années 80 avec un soundtrack des années 80, c'est intéressant. Et là, bon, c'est les années 90, donc ils ont remis tous les grands passages des années 90. Donc, tu as Windows 95, les CD, les chansons de Désiré, pour ceux qui connaissent, Kurt Cobain, le grunge, voilà un peu toutes les années 90, Street Fighter 2 à un moment, la bande de Street Fighter 2, et après il y avait le caméo de Stan Lee, et qui après il faut connaître en fait la phrase qui dit True Believer, ça vient d'un film qui s'appelait Les Glandeurs, c'est avec Jay Bob. Donc voilà, ils ont commencé le film en faisant l'hommage directement à Stan Lee. Donc ce qui était pas mal, et voilà. Donc maintenant on attend tous Endgames, on verra si Thanos partira ou pas.